Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, bienvenue sur CNews en ce lundi après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de 90 minutes info. C'est parti dans un instant, juste après, bien sûr, le rappel des titres. Il est signé Adrien Spiteri aujourd'hui.
Elisabeth Borne présente un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Depuis à l'Institut du Monde à Paris, la Première ministre promet une fermeté totale dans la réponse pénale, un renforcement de la lutte contre la discrimination à l'embauche. Elle annonce également la création d'un mémorial pour les gens du voyage. Un mardi noir dans les transports. À la RATP, le trafic sera grandement perturbé demain avec un train sur quatre sur la ligne 12, aucun train sur la ligne 3 bis. À la SNCF, deux Ouigo sur 5 circuleront, deux TER sur 10. Le trafic aérien sera aussi affecté, conséquence de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis au moins 32 morts et 150 blessés au Pakistan en cause d'une explosion à l'intérieur d'une mosquée. Elle a eu lieu ce lundi à l'heure de la prière. La mosquée se situe à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Afghanistan. L'ensemble du pays a été placé sous haute alerte sécurité.
Et au programme aujourd'hui, nous parlerons du braquage d'un barbier interrompu par la police en plein 15e arrondissement grâce à la vigilance d'un voisin. Alors l'observation de situations anormales, est-ce aussi la responsabilité de chacun? Cette histoire finit bien, mais l'agressé a eu très peur. Écoutez.
Elle m'a tranglé en derrière. Après moi, j'ai pensé, sur moi, il y a un coton, je ne sais pas quoi dedans, et sur lui. Après, je lui ai donné la motre. Après, les flics, heureusement, ils ont rentré.
Un texte qui débarque cette fois pour de vrai à l'Assemblée. Des syndicats qui veulent croiser le fer demain à nouveau dans les rues. Peut-être une mobilisation massive d'ailleurs. Et une majorité pas si solide qu'il y paraît. Le gouvernement commence-t-il à douter? En tout cas, sur la question des 64 ans, il ne pliera pas. On écoute.
Plus vous parlez, plus le nombre de Français qui sont contre cette réforme augmente. Deux semaines de pédagogie du gouvernement, c'est plus 13 points de Français et de Françaises qui sont contre cette réforme.
Enfin, nous parlerons du droit à la différence et du respect de l'autre. Vous entendrez d'ailleurs le témoignage crève-cœur de la mère du jeune Lucas, âgé d'à peine 13 ans, lorsqu'il a mis fin à ses jours parce que harcelé à l'école.
Moi, oui, c'est le harcèlement qui a été l'élément déclencheur. Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Enfin, c'est mon ressenti à moi. Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même.
Voilà le programme. Et tout de suite, les invités du jour. Bonjour Gabriel Cluzel. Je rappelle que vous dirigez la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci d'être là. Merci à vous également, François Pouponi, ancien député. Ainsi d'ailleurs que Pierre Lelouch. Merci d'avoir fait le déplacement. Avant d'en venir, vous l'aurez compris, au gros morceau que constitue la réforme des retraites. Ça va nous occuper une bonne partie de la semaine déjà, et sans doute aussi celle à venir ensuite. Un mot sur un texte qui passe encore un peu inaperçu dans cette actualité sociale. C'est cette semaine que Gérald Darmanin doit présenter son projet de loi immigration en Conseil des ministres, mais le texte n'a pas encore recueilli l'aval de députés LR, par exemple, pour espérer pouvoir passer. La droite qui s'interroge notamment sur les titres de séjour et qui souhaiterait fixer des quotas pour les métiers en tension. Alors qu'en pensent les principaux concernés? Avant d'avoir un invité en direct, je vous propose de regarder ce reportage tourné par nos équipes chez un restaurateur qui, lui, est favorable à l'instauration de ces quotas.
Tout est réglé, madame, monsieur ?
Ce restaurateur n'y va pas par quatre chemins. La proposition de Gérald Darmanin, il l'approuve. Il n'y voit même aucun inconvénient.
Si les personnes qui sont dites françaises ne veulent plus faire ce métier-là, je suis tout à fait ouvert à prendre des étrangers. Parce que le but principal, mon intéressement à moi, c'est de trouver de la manœuvre pour répondre à ma clientèle.
Et pour cause, dans cet établissement parisien, le constat est sans appel. Faute de personnel, le gérant est sur tous les fronts. Il lui manque aujourd'hui deux employés pour faire tourner son affaire correctement.
Sans ces deux personnes, en fait, manquant au staff, eh ben, le reste des employés, ils ont une amplitude horaire qui est vraiment plus élevée Donc déjà que c'est difficile au terme d'horaire. S'il y a quelqu'un du personnel qui a un empêchement, que ce soit famille ou personnel, on n'a pas de plan B.
Du côté de la clientèle ce jour-là, la proposition ne fait pas débat.
Je pense que c'est une bonne chose, en fait, ça peut les permettre de s'intégrer.
Le travail peut vraiment être un moteur de motivation et d'insertion dans la vie sociale et professionnelle.
En Île-de-France, il manquerait jusqu'à 40 000 personnes selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, un chiffre qui grimpe à 220 000 emplois vacants au niveau national.
Et une première réaction en direct, nous sommes avec Franck Delaveau qui est le président de l'UMIH Paris Île-de-France. L'UMIH, c'est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Merci de nous rejoindre. On l'a entendu à la fin du reportage, il s'agit de combler en fait 40 000 postes manquants en région parisienne, c'est beaucoup. Parmi les restaurateurs que vous êtes amenés à rencontrer, est-ce que ce sentiment de voir régulariser, de voir instaurer des titres de séjour prévaut ? Est-ce que c'est vraiment une demande générale parce qu'on ne peut pas combler ces emplois, pour voir ces emplois ?
Oui, tout à fait, vous l'avez souligné, il manque environ entre 30 et 40 000 postes sur Paris-Île-de-France, en hôtellerie, notamment restauration. Effectivement, nous, on est pour ces régularisations. Sans compter également qu'il y a les vrais faux papiers, c'est-à-dire des personnes qui ont été embauchées sur la base de faux papiers, et au moment du renouvellement, donc ces gens sont déclarés, et au moment du renouvellement, ça bloque au niveau de la préfecture, parce que là, on s'aperçoit qu'ils ont des faux papiers. Or, c'est des personnes qui, pendant leur déclaration, ont cotisé. Nous, les employeurs, on a cotisé, le salarié a cotisé, et pour rien, puisqu'il ne va même pas bénéficier de la retraite ou d'autres choses. Donc, effectivement, oui, il faut régulariser ces personnes qui travaillent et qui sont complètement dans la société française.
Oui, mais d'une manière générale quand même, le non-attrait de ces métiers, est-ce que ce n'est pas lié aussi à une non-revalorisation des salaires ? On dit, voilà, il y a encore un chômage, certes résiduel, mais enfin, il y a des emplois à pourvoir pour ceux qui sont en activité en France. Pourquoi ne pas les rendre plus incitatifs ?
Alors, les salaires, je vous rappelle qu'en avril 2022, nous sommes une des premières branches à avoir revu au niveau de nos échelons et à avoir revu de façon forte les rémunérations, puisqu'on a augmenté en moyenne de 16%. Alors, on vient d'être rattrapé par les augmentations du SMIC au niveau 1, échelon 1, mais on est une branche où on a fortement revu les rémunérations. Et puis, je tiens à souligner aussi que dans notre branche, il y a ce qu'on appelle l'ascenseur ou l'échelle sociale qui fonctionne. Vous pouvez démarrer en bas de l'échelle et puis finir chef de salle, voire propriétaire de votre brasserie.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ça n'attire plus les jeunes, les étudiants qui voyaient ça il y a encore 10, 15, 20 ans comme un métier d'appoint, comme on le voit beaucoup dans les pays anglo-saxons aussi ?
Oui, je pense que je dis c'est de façon plus générale, puisqu'il n'y a pas uniquement dans la restauration, il y a des problèmes de recrutement, c'est un peu dans tous les métiers manuels. Et puis il y a le télétravail, comme je disais, vous savez, faire un bœuf bourguignon en télétravail, on a essayé, on n'y arrive toujours pas. Donc oui, on ne peut pas faire de télétravail. Oui, on travaille quand les autres ont envie de s'amuser. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa d'être servi par une serveuse, un serveur, que demain par un robot. Donc il faut aussi remettre au niveau de l'éducation la valeur travail, que ce soit dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de service. Et ça, ce n'est pas assez mis en valeur au niveau de notre pays.
Alors vous restez avec nous, on va vous inclure à la conversation en plateau avec nos autres invités. Je vais vous soumettre cet extrait de ce qu'a dit Gérald Darmanin à propos de ces fameux quotas. Lui, il dit, le ministre de l'Intérieur, qu'il est prêt à discuter. Chez les LR, certains défendent l'idée d'instaurer des quotas pour limiter les régularisations. Discutons-en. Nous sommes ouverts à toutes les discussions dans le cadre du débat parlementaire. Donc il y a encore une marge de manœuvre. Donc on sent que c'est pas gagné cette histoire. On compte souvent du côté de Renaissance, de la majorité présidentielle, sur le soutien quasiment de facto des LR. Or on voit que, et sur ce texte et sur les retraites, ça va pas être si simple, Pierre Lellouche.
En fait, il y a deux sujets là. Il y a les régularisations des gens qui sont ici et dont certains travaillent. Pas tous d'ailleurs, puisque le taux de chômage chez les gens immigrés en France, c'est 56%. Donc c'est dire que il y a de la marge. Et puis il y a l'idée aussi de faire rentrer les gens avec une rubrique travail dans les métiers dits sous tension. Alors moi je dis au monsieur qui préside
à monsieur Delvaux, oui.
À monsieur Delvaux, que je suis moi-même fils de restaurateur et dès l'âge de 12-13 ans, je servais dans la salle. Donc je sais que c'est un métier difficile et j'ai vu mes parents y laisser leur santé, je sais combien c'est difficile et je sais que c'est difficile de trouver des salariés. Mais qu'on n'aille pas me dire que la solution au problème des métiers de la gastronomie et de l'hôtellerie en France, premier pays touristique au monde vient de l'importation de gens qui arrivent du fin fond de l'Afghanistan ou de l'Érythrée, qui ne parlent pas un mot de français, qui ne savent pas servir dans la salle et encore moins faire un bœuf bourguignon. Je suis
donc il y a un sujet sur l'attractivité du métier.
Le souci, c'est celui que vous avez dit. Ouais. C'est-à-dire le fait que le métier est dur et insuffisamment attractif et insuffisamment payé pour générer des jeunes générations de gens qui sont passionnés par la restauration, l'hôtellerie, etc. C'est ça notre problème. Et c'est l'incitation au travail et le fait que bien souvent de ne pas travailler rapporte autant de travailler qui fait qu'on dit la solution est dans l'immigration. Je ne le crois pas. Il y a en France en ce moment 350 000 offres d'emploi. C'est pas parce que les Français veulent pas les prendre qu'il faut ouvrir la porte à l'immigration, parce que ceux qui vont rentrer vont se remettre ensuite naturellement aux lois sociales françaises et on recommencera. Donc si le jeu consiste à dire il y a un problème d'attractivité, de valeur travail, et donc la solution c'est d'ouvrir les portes, on est foutu. Article 1. Deuxièmement, s'agissant des métiers sous tension, faisons comme les pays autour de nous qui font appel à une main-d'œuvre très qualifiée dans les secteurs d'avenir pour l'économie française. Je pense aux Allemands qui font appel, par exemple, à des gens qui sont des ingénieurs, parce qu'on ne produit pas assez d'ingénieurs, d'informaticiens, qui viennent d'Inde, par exemple. Ça, je peux comprendre. Mais qu'on fasse rentrer des gens qui n'ont aucune formation, qui bien souvent ont des niveaux inférieurs au certificat d'études ou au brevet. C'est ce que disent toutes les statistiques pour ensuite dire...
Combler des besoins immédiats, oui.
Je ne comprends pas.
François Pomponi, on sent bien, comme le dit Pierre...
Faisons des quotas, mais extrêmement serrés. Quoi.
Qu'il faut avoir, au fond, sur ces questions, une réflexion plus transversale. C'est-à-dire qu'il faut s'interroger aux racines du problème et pas seulement combler les trous. Quoi.
Enfin, sur l'hôtellerie et la restauration, c'est un sujet que je connais bien aussi, en cuisine... si on ne régularise pas les gens qui travaillent en cuisine dans un centre de restaurant et qu'il y a des contrôles, on ferme tous les restaurants. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, qui travaille dans les cuisines on sait très bien que c'est souvent des immigrés en situation irrégulière. Il y a un problème au service. Et là, on a un problème de formation en France. On ne forme pas suffisamment de jeunes pour ces métiers-là. Et les jeunes Français, évidemment, n'ont plus envie de le faire. Donc là, un des moyens ouverts, c'est pas forcément d'aller en Afghanistan. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hôteliers restaurateurs veulent aller en Tunisie, par exemple, où il y a du personnel formé, capable de venir, qui parle français. Donc on voit bien qu'il y a un sujet de formation, d'attractivité. Et si on ne régularise pas, moi je vois la préfecture de Val-d'Oise fait régulièrement des descentes de contrôle dans les restaurants, et ils ferment parce qu'il y a des gens qui sont en situation irrégulière. Donc c'est un vrai sujet. Alors après, par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux Républicains, on leur dit, il va falloir régulariser, même ouvrir les frontières pour les métiers en tension, y compris avec des gens très diplômés, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, ils disent oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont irréguliers et qu'on ne veut pas garder chez nous? Voilà. Oui. Et là, le ministre dit vous inquiétez pas, les OQTF, on va faire mieux qu'avant et ça ira mieux. Et comme ils sont un peu sceptiques, ils se disent pour l'instant, le compte n'y est pas.
Très bonne analyse et très bonne finalement synthèse. Pour compléter la réflexion, Gabriel Cluzel,
je suis tout à fait d'accord avec mon voisin. Il y a des restaurateurs, j'en connais, qui n'emploient pas des gens irréguliers dans les cuisines.
Heureusement.
Par contre, c'est pas général. Non, moi j'ai été assez heurtée par les propos de ce monsieur, qui témoignait là. Il disait donc les gens qui sont sans papier, ils ont cotisé pendant des années et ils peuvent pas récupérer leur cotisation, donc il faut les régulariser. Alors il y avait un principe de droit. Et là aussi, je me dis, on a vraiment une société qui marche sur la tête. Qui s'appelait, alors je crois que c'était en première année de droit, on apprenait ça aux étudiants, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc si vous voulez, partir dans l'idée qu'ils étaient sans papier, ils ont cotisé, il va donc falloir les régulariser pour qu'ils récupèrent leur cotisation, c'est n'importe quoi. Alors si les restaurateurs aujourd'hui se posaient les bonnes questions, peut-être qu'ils auraient les bonnes réponses. Et si l'État aussi se posait les bonnes questions. Pourquoi personne ne veut travailler dans les restaurants? Parce que c'est dur et parce que surtout, c'est mal rémunéré. Alors peut-être faut-il mieux rémunérer plutôt que de faire venir des migrants qui sont habitués à travailler dans des conditions difficiles. Donc on compte là-dessus. Si vous voulez, c'est assez cynique de la part d'un restaurateur. On compte sur le fait que ces gens-là ne sont pas habitués à nos standards de vie français pour les faire travailler. Puis après,
ça contribue à la paupérisation du métier.
Mais évidemment. Et l'État aussi pourrait se demander s'il n'y a pas des charges que l'on pourrait... Bon, ça a été d'ailleurs envisagé par le passé, mais des charges allégées pour ces métiers-là.
Par ailleurs, dernier point, et vous avez eu raison de le dire, c'est que la population étrangère aujourd'hui est plus au chômage que la population française. Donc il va peut-être falloir arrêter avec ce narratif qui devient pénible et insultant, selon lequel les Français voudraient moins travailler que les étrangers.
Franck Delvaux, vous n'avez pas beaucoup d'avocats sur le plateau. Néanmoins, on va vous laisser vous défendre et peut-être amener vos arguments sur la table pour compléter le tableau là.
Oui, je pense qu'effectivement, je n'ai pas beaucoup d'avocats pour défendre mon métier. Oui, je veux réagir à ce qui est dit.
Votre métier, non, votre point de vue.
Votre métier, cher monsieur, moi je le défends tous les jours.
Monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Monsieur Lelouch, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Merci.
Allez-y.
Évidemment, je m'élève quand il vient d'être dit. On n'embauche pas des gens sans papier. Et en hôtellerie-restauration, fort heureusement, dans beaucoup d'établissements, alors je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais dans beaucoup d'établissements, les gens sont déclarés dans une très grande majorité. Ce que je parlais tout à l'heure, c'est les vrais faux papiers. C'est-à-dire que vous embauchez quelqu'un avec des papiers qui sont faux, mais quand ils sont, nous, on prend ça pour des faux papiers, on ne sait pas comment on peut faire entre des vrais et des faux papiers. Et au moment du renouvellement, donc cette personne cotise sur le nom qui a été déclaré, et au moment du renouvellement, on s'aperçoit que ce sont des faux papiers. Mais ce sont des gens qui travaillent et qui sont dans la société française. C'est sur ces personnes-là où nous on dit aujourd'hui, il faut qu'on puisse les régulariser, parce qu'ils occupent un emploi, et ils travaillent, et ils sont complètement en phase dans la société. Après, effectivement, de dire qu'on ne paye pas les gens, il faut arrêter aussi de dire qu'on ne paye pas les gens et qu'on va encore sous-payer des travailleurs étrangers. C'est du grand n'importe quoi. Enfin, en France, il y a des lois, vous ne payez personne en dessous du SMIG. La preuve, toutes les branches aujourd'hui qui ont été rattrapées par les augmentations, vous payez tout le monde. Mais je suis désolé, vous ne payez pas, il faut arrêter de dire que dans la restauration, on paye des gens en dessous du SMIC.
Sur le rattrapage des cotisations sociales, comme disait Gabriel, à la base, on leur a rien demandé, ceux qui sont entrés illégalement pour tenter de travailler.
Ah, tout à fait, mais c'est-à-dire que les cotisations, elles sont doubles. Vous savez très bien que les cotisations sont salariales et patronales. Donc nous aussi, on cotise pour ces cotisations. Donc ces personnes-là qui sont dans la société, qui ont un emploi et qui travaillent, pourquoi ne pas les régulariser? Je ne vois vraiment pas où est le problème. Ce sont des gens qui travaillent, qui travaillent tous les jours.
Il
nous reste 2 minutes juste pour...
La réponse à ça, c'est qu'il y a un pays qui s'appelle la France. Okay. On n'est pas obligé, parce que tel métier manque de bras, parce que ces gens sont mal payés, de changer la nature du pays. On a eu le même problème avec l'automobile en France dans les années 60. On a ouvert les vannes parce qu'on avait besoin de construire des automobiles en France. On a fait venir des millions d'immigrés. Les immigrés sont restés, ils ont fait souche, les voitures sont parties. Et les constructeurs automobiles français font maintenant construire les voitures en Algérie ou au Maroc.
Si
on ne se met pas d'accord sur le fait qu'il y a des personnes en situation régulière qui travaillent dans l'hôtellerie de restauration, bon, je vous invite à regarder le site de la préfecture du Val-d'Oise qui fait des contrôles. Là, je regarde celui d'hier, il y a 4 heures, un restaurant, il a été constaté une personne en situation, 33% de l'effectif, un autre établissement, 100% de l'effectif en situation régulière. C'est une réalité, voilà.
Alors, c'est normal?
Non, mais je ne dis pas que c'est normal, mais c'est une réalité. Moi, je peux vous dire, bon. Donc, la question, et vous le dites vous-même, il faut vous dire que, on doit en régulariser régulièrement, et certains se régularisent. La vraie question, c'est ces gens-là qui travaillent, qui sont payés, il va falloir les régulariser. C'est ce que, moi, j'en suis convaincu. Et effectivement, il en manquera quand même, il faudra en faire venir. Voilà.
Vous êtes pour faire des migrations choisies pour la restauration et les...
Moi, j'ai des amis restaurateurs.
Oui, moi aussi, j'ai
des amis restaurateurs. Cet été, activité saisonnière en Corse. Ils ont fermé leur restaurant en plein été, 3 jours par semaine. Ils n'avaient plus de personnel. Par contre, il y avait plus de personnes qui voulaient travailler.
Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont un niveau de vie en restant chez eux.
Oui, mais d'accord.
Si les gens ont un besoin de travailler, ils vont travailler. S'ils sont payés à rien foutre chez eux, ils n'ont aucune raison d'aller travailler dans un restaurant ou d'aller ramasser des fruits en Anjou. Pourquoi? Moi, je vois dans le centre de la France des vergers à perte de vue. Personne pour ramasser les fruits. Il faut faire venir des personnes qui arrivent de Pologne, d'Espagne.
Oui, parce que les Français ne veulent plus le faire.
Parce que les jeunes Français...
Moi, j'en ai marre qu'on tape sur la tête des Français. Il y a des gens qui emploient cette immigration clandestine avec l'idée claire que ça leur coûtera moins cher.
Ils ne trouvent pas.
Mais évidemment.
Attendez.
La vérité, c'est tout sans doute un peu mieux.
Non, juste. pour faire venir un étranger, officiellement travailler en France, la préfecture dit, demandez d'abord à Pôle emploi. Il y a un délai de carence. Donc on demande à Pôle emploi qui veut venir travailler dans le restaurant, zéro réponse. Et au bout de 3 mois où personne en France ne répond à Pôle emploi, la préfecture dit OK pour aller recruter à l'extérieur.
Non, mais alors je vais vous expliquer pourquoi votre raisonnement ne tient pas. Parce que si on n'a plus le temps. Une fois on aurait résolu fait venir des migrants, on aurait résolu le problème de la restauration et ce serait terminé. C'est pas le cas. C'est un flux continu.
C'est autre chose.
Au bout d'un moment, les migrants qu'on a fait venir atteignent un standard de vie français et ne veulent plus travailler.
Merci beaucoup.
On n'a pas fini d'en parler.
Et c'est un flux.
Et 500 000 personnes par an. Ça va à des situations qui sont ingérables dans le Val d'Oise, dans Cherami, vous connaissez bien. Villiers-le-Bel, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse. On a des ghettos et c'est ingérable. Ensuite, les restaurateurs disent mais moi, j'ai plus besoin de ces personnes, donc c'est à l'État de s'en occuper. C'est pas sérieux.
Tout ça, c'est pas sérieux. Il faut se taire quand on vous le demande.
Et je promets.
La deuxième partie de 90 minutes info, c'est dans un tout petit instant, mais il est de retour et en pleine forme, me dit-on. C'est Simon Guilin pour le JT. Bonjour Simon.
Bonjour Anneli et bonjour à tous. À la veille d'une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, le texte est débattu depuis ce matin en commission à l'Assemblée nationale. La NUPES a déposé 7000 amendements. Raquel Garrido de la France Insoumise a défendu ce nombre d'amendements qu'elle juge même raisonnable. On l'écoute.
La France Insoumise et la NUPES ont été particulièrement raisonnable dans la quantité d'amendements déposés. On est sur une quantité d'amendements à 7000 amendements qui est parfaitement proportionnée à l'envergure de ce texte. Il ne serait pas acceptable que le gouvernement, dans l'hémicycle, tripatouille l'ordre des articles. Nous avons fait notre part. Maintenant, c'est à eux de respecter le Parlement. Eux doivent maintenant prendre l'engagement d'examiner les articles dans l'ordre.
Et toujours en marge de cette mobilisation, Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 11 000 policiers et gendarmes dans toute la France, dont 4 000 à Paris. Et vous le voyez à l'antenne, ce parcours de cette nouvelle journée de manifestation, un cortège qui s'élancera de la place d'Italie à 14 heures. Le cortège passera par l'avenue du Port-Royal Montparnasse, avec une arrivée prévue place Vauban aux alentours de 19 heures. Je vous propose à présent d'écouter ce commerçant, un commerçant parisien qui n'est pas vraiment inquiet à l'approche de cette mobilisation massive. On l'écoute.
On se prépare dans la répétition parce que ça fait, moi, 35 ans que je suis ici et ça fait 35 ans que je vois des manifestations et des défilés. Donc on se prépare comme on se prépare habituellement, c'est-à-dire on vient quand même travailler, on ouvre la librairie, on la ferme si effectivement on voit qu'il y a un peu trop d'agitation et qu'il y a un peu trop de risques. Ça nous est arrivé 2-3 fois de la fermer. Mais globalement, non, on laisse passer la manif. Voire on s'associe à la manif en disposant en vitrine des calicots où il est écrit « en grève » lorsqu'on estime que nous aussi, même si on ne défile pas, on est solidaires du mouvement.
Une nouvelle mobilisation qui sera une nouvelle fois très suivie dans les écoles. Le premier syndicat du primaire annonce 50% de grévistes dans les écoles. Une mobilisation qui va également impacter les transports avec un trafic très perturbé à la SNCF et également dans le métro parisien. Il est donc l'heure pour les Français de s'organiser et de trouver une solution. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages recueillis à la gare Paris-Montparnasse.
Mon train a été annulé, donc j'ai choisi de partir aujourd'hui pour être sûre. Il n'y avait plus d'autres trains disponibles dans la journée.
Je comptais rester à Paris aujourd'hui et partir chez moi demain. Et comme il y a grève à partir de 19h, je rentre chez moi ce matin.
J'ai dû reporter mon TGV à aujourd'hui pour pouvoir y aller sans avoir de train et de changement d'horaire à prévoir pour mardi.
Ce soir, je dois rentrer tôt, justement, pour garantir de rentrer chez moi. Et demain, ce sera du télétravail, pour sûr.
Et puis, un tout autre sujet. Dans ce journal, on voulait vous parler de cette nouvelle drogue qui inquiète les autorités. Le Lyrica 300, également appelé la drogue de la misère. Ce puissant anxiolytique est vendu sous le manteau, environ 2,50€ la gélule. Alors, quels sont les dangers de cette drogue très bon marché ? Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
Le Lyrica se présente sous forme de gélule, comme ici, dans la main d'un revendeur. Ce médicament, utilisé à l'origine contre les douleurs neuropathiques, est devenu dans les rues de la capitale une drogue bon marché.
J'ai défoncé, j'étais un peu ailleurs. C'est pas cher, c'est 2 euros. Après, tout le monde y prend ça parce qu'ils savent très bien que c'est pas cher. Les gens ils gagnent beaucoup d'argent sur ça que aller vendre des cigarettes ou aller vendre du shit, tu vois.
Le Lyrica est délivré uniquement sur ordonnance, environ 6 euros la boîte de 50 comprimés, qui seront revendus en moyenne 2,50 euros à l'unité sur le marché noir.
Ça se présente comme ceci.
Face à ce trafic souterrain très juteux, les pharmacies sont régulièrement confrontées à des toxicomanes et des revendeurs.
Souvent, bah, c'est des personnes qui n'ont pas de carte vitale et souvent, c'est des présentations d'ordonnances par mail. Il y a aussi des fausses ordonnances. Moi, je préfère dire que j'en ai pas en stock. Souvent, bah, les gens sont agressifs et ça nous est déjà arrivé que des patients qui présentent ce genre d'ordonnances viennent avec des béquilles ou des ceintures pour qu'on voit vraiment qu'ils sont malades et à la fin, en sortant de la pharmacie, ils enlèvent tout ça, quoi.
Les professionnels de santé, inquiets face au phénomène, veulent alerter les pouvoirs publics car la substance, mélangée à d'autres produits psychoactifs, peut être mortelle.
Et puis à l'international, Anthony Blinken est arrivé à Tel Aviv. Le secrétaire d'État américain a de nouveau appelé Israéliens et Palestiniens à apaiser les tensions sur place. Cette visite d'Anthony Blinken était prévue de longue date. On va l'écouter lors de son arrivée.
Il est de la responsabilité de chacun de prendre des mesures pour apaiser les tensions plutôt que de les exacerber. Travailler pour que personne ne ressente de peur dans sa communauté, dans sa maison, dans les lieux de culte. C'est la seule façon d'arrêter la marée montante de violence qui a coûté trop de vies à trop d'Israéliens, trop de Palestiniens. Je le ferai comprendre tout au long de mon séjour en Israël et en Cisjordanie à tous ceux que je rencontrerai.
Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h. La suite du débat, c'est avec vous. Nelly Denac et vos invités.
Merci beaucoup et tout de suite, on va s'intéresser à la réforme des retraites à nouveau avec la chronique écho d'Éric de Ritmaten. C'est parti.
Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
Bonjour Eric. Alors dans le cadre de la réforme des retraites, on va beaucoup en parler cette semaine, le gouvernement planche pour apporter quelques compensations dans ce qu'on appelle les tâches pénibles. Il y a certains métiers difficiles qui échappent aux critères.
Oui, alors c'est assez étonnant, mais vous savez qu'il y a des métiers pénibles, c'est vrai, qui n'entrent pas. Alors, pour en bénéficier, il fallait avoir un certain nombre de critères, mais ces critères ont disparu en 2017. Ça veut dire que, par exemple, pour un déménageur, depuis 2017, le port de lourdes charges n'est plus considéré comme un facteur de pénibilité, alors que pourtant les déménageurs pouvaient espérer partir à 60 ans au lieu de 62 à l'époque. Vous voyez que les postures pénibles, tout ça, le travail soumis à fortes vibrations, l'exposition à des agents chimiques, ça n'entre plus en ligne de compte. Vous avez même le marteau-piqueur qui est plus pris en ligne de compte. Alors j'ai appelé ce matin le BTP, un grand groupe de BTP, et ils m'ont dit que de toute façon c'était lié à la durée d'utilisation d'un marteau-piqueur et qu'un ouvrier marteau-piqueur ne travaille pas 7 heures par jour sur son marteau-piqueur. Donc vous voyez, ça n'entre pas, c'est assez sidérant. Alors je vous dis tout ça parce que ça veut dire que dans la nouvelle réforme, il va y avoir, vous savez, un compte qui va être créé, il va y avoir la possibilité d'aller voir un médecin à partir de 61 ans et de se faire arrêter pour partir de manière anticipée. Mais c'est une usine à gaz considérable. Et pourquoi les critères avec la loi précédente avaient été supprimés? Parce qu'on n'arrivait pas à les quantifier, on n'arrivait pas à les mesurer. Et pourtant, c'était bien pratique parce que vous obteniez des points et ces points vous permettaient de valider un certain nombre de trimestres et donc de pouvoir partir de manière anticipée. Voilà. Tout ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de personnes qui bénéficient de cette pénibilité des tâches. 3000 personnes en France seulement, c'est quand même pas grand-chose. L'État a répondu que dans la future loi, si elle passe, ce serait 20 000 personnes qui pourraient en partir. Mais comme je le disais, c'est très complexe et rien ne dit que ces départs seront aussi faciles qu'on le dit.
Merci beaucoup. C'était la chronique éco d'Éric.
Votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
Allez, on continue de débattre avec nos invités. Pierre Lellouche, François Pupponi et Gabriel Cluzel sont toujours en ma compagnie. On va parler évidemment de la réforme des retraites. Ce qu'on a compris, c'est qu'Elisabeth Borne, l'exécutif en général, reste inflexible sur la notion des 64 ans. Ce qu'on a appelé, il y a encore quelques jours, le fameux totem des 64 ans. Ça n'est plus négociable, c'est le terme qu'a utilisé la Première ministre. Cette réforme est très critiquée pour son impact sur les femmes, y compris d'ailleurs dans la majorité aujourd'hui. En revanche, Elisabeth Borne, elle se dit plutôt ouverte à la discussion sur une meilleure utilisation de ce qu'on appelle les trimestres éducation et maternité. Et puis surtout, ce qu'on retient, Élodie Huchard, c'est que c'est à partir d'aujourd'hui que les députés s'emparent de la question avec une étude du projet en commission des affaires sociales avant une étude au sens large du texte. Ce sera dans l'hémicycle à partir de mercredi, je crois, ou jeudi.
Oui, exactement, Nelly. L'étude du texte a commencé ce matin en commission des affaires sociales à 9h30. Un débat d'abord qui a commencé sur la forme, parce qu'il n'y avait pas forcément assez de chaises pour tous les députés, parce qu'un certain nombre de députés, par exemple de la France Insoumise, voulaient assister à la commission, même s'ils n'en font pas partie, ils y ont le droit, mais forcément les députés ont manqué de place. Et puis il y a aussi la question du temps des débats. Les députés ont précisément 5693 amendements à étudier, le tout en 27 heures, pas plus, ce qui veut dire qu'il faudrait étudier un amendement toutes les 16 secondes. Et forcément, vous l'imaginez, le compte n'y est pas. Alors sur le fond, pour l'instant, chacun reste campé sur ses positions. À gauche, on ne veut pas de cette réforme. La France Insoumise, notamment, a proposé sa contre-réforme, une retraite à 60 ans avec 40 annuités, pas de retraite quand on a une carrière pleine en dessous, 2600 euros net par mois. À droite, les Républicains essayent de peser le maximum, mais toutes les oppositions regrettent le fait qu'on prenne cette réforme par le biais financier et non pas par le biais humain. Et puis surtout, l'opposition, elle sait bien qu'elle a l'opinion publique de son côté, alors qu'on est à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Alors du côté de la majorité, on reste ferme. Vous rappeliez il y a quelques instants les propos de la Première Ministre. La rapporteure du texte n'a de cesse de rappeler que certes, elle comprend qu'on demande des efforts aux Français, mais que ce sont des mesures de justice sociale. Et puis effectivement, à partir du 6 février, le texte arrivera cette fois en séance publique dans l'hémicycle.
Élodie Huchard, alors on entend beaucoup Elisabeth Borne, on entend beaucoup Bruno Le Maire, on entend beaucoup Olivier Dussopt. Et à contrario, quand on écoute Mathilde Panot pour la France Insoumise, elle nous dit « plus ils parlent, plus les Français sont contre ». Écoutez.
Plus vous parlez, plus le nombre de Français qui sont contre cette réforme augmente. Plus vous parlez, plus les gens comprennent que ce sont effectivement les femmes qui vont être pénalisées. C'est d'ailleurs le ministre Riester qui le dit. Plus vous faites de la pédagogie, deux semaines de pédagogie du gouvernement, c'est plus 13 points de Français et de Françaises qui sont contre cette réforme. Et s'il y a un point sur lequel les Français et les Françaises ne vous croient pas, c'est bien celle du fait qu'il y ait une nécessité économique à faire cette réforme.
Puzel, bien que vous ne partagiez pas ces idées, sur le fond, elle a raison en termes de contre-productivité de cette communication. Il s'empêtre un peu, cet exécutif.
Oui, c'est une constatation. Là. C'est difficile de ne pas être d'accord parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure que le gouvernement parle, eh bien, l'adhésion de la population semble augmenter. Mais c'est vrai que et il communique d'une façon qu'il est difficile de trouver autrement que désastreuse. Cette façon d'être dressé sur ses ergots la veille de la manif, enfin l'avant-veille, pardon, d'aller dire 64 ans, c'est pas négociable de la part de Elisabeth Borne, c'est un peu étrange. Vous savez, il y a ça s'appelle la muleta, je crois, dans les corridas, le chiffon rouge que l'on agite devant le taureau. C'est un peu étonnant d'utiliser cette technique. Donc, et puis, il faut se rendre compte du contexte actuel. Les Français ont le sentiment qu'on est toujours fort avec les faibles ou fort avec les gentils, je dirais, les Français ordinaires qui bossent, qui simplement n'ont pas envie de qu'on les fasse travailler plus tard, qui ont des doutes sur cette réforme, et qu'à côté de ça, on est très faible avec d'autres Français. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des migrants clandestins. Bah, le fait est que là, on dit, oh, bon, ils sont rentrés sans papier, mais on va les régulariser. Vous voyez, cette espèce de double discours qui est toujours extrêmement gênant et qui, à mon avis, rajoute de la rancœur à la méfiance.
Je vous propose d'écouter aussi Marisol Touraine, qui dit « c'est une mauvaise réforme ».
Cette loi, elle divise parce que on a le sentiment, enfin j'ai le sentiment, que la mesure phare, qui est le relèvement de l'âge légal à 64 ans, est posée comme le totem du réformisme. Ça ne peut pas être cela. À partir du moment où il y a des inquiétudes et des tensions, et à partir du moment où cette mesure non seulement est perçue comme injuste, mais je crois profondément est injuste, alors il y a un risque pour notre pays. Et mon message, c'est pour l'unité du pays, pour la cohésion nationale, nous avons besoin d'une loi qui rassemble et pas d'une loi qui risque de se transformer en passeport pour le populisme d'extrême droite.
Pierre Lellouche, est-ce un totem qui pose un risque pour la suite, comme elle le décrit là ?
Elle est très forte, Marisol Touraine, j'ai bien connu.
Faut oser.
Femme de gauche, qui est l'auteur de la réforme la plus hypocrite.
C'est le dernier texte en vigueur.
Mais
quand même,
efficace, sous François Hollande. Parce que mine de rien, elle a fait bouger le curseur de 40 à 43 années de cotisation. Ce qui est quand même le cœur du sujet, parce que 64, c'est le totem, la muleta, le chiffon rouge, tout ce que vous voulez. Mais le vrai sujet, c'est combien d'années un Français doit-il cotiser ? Si vous commencez à 20 ans à travailler, vous arrêtez à 63. On n'est plus dans le 64 ans. En revanche, si vous faites des études et que vous profitez de la vie jusqu'à 28, 29 ans, vous commencez à travailler à 30 ans, alors là, vos 43, ça vous amène à 73, 74 ans pour avoir une retraite à taux plein. Et vous êtes obligé d'épargner et donc de vous responsabiliser et de glisser vers quelque chose sans le dire qui s'appelle la capitalisation. Ouais. Alors, Madame Touraine, elle a fait ça, la femme de gauche. Elle a fait une réforme, d'ailleurs intelligente. Nous, on l'avait soutenue à l'époque, évidemment, parce que en fait, elle a évité le chiffon rouge de la reine dans laquelle s'est précipité M. Macron avec 65 ans. Faut dire que la droite aussi était allée 65 ans, parce que ça, c'est un marqueur dans un programme électoral. Mais le seul truc vraiment important, c'est la durée de cotise. Si vous faites une durée de cotise à 44 ans, 45 ans, et vous y arrivez très progressivement, bah, c'est moins douloureux. Et au fond, vous avez réglé votre problème.
Mais alors pourquoi s'arc-bouter sur ces 64 ans? Ils n'ont
pas compris
pas.
Moi, je dis depuis le début, qu'il s'est totalement trompé sur la méthode. Il ne fallait jamais faire ça à la rentrée au moment de la, où les taux, les coûts de l'énergie, la guerre en Ukraine, l'inflation. Il fallait faire ça avant, il fallait faire ça au lendemain des législatives, avec une, méthode, une réforme technique comme celle-là. Façon Touraine, ça passe comme une lettre à la poste. Ça, ça risque de bloquer parce qu'il y a le chiffon rouge. Et puis que dans leurs explications à l'embouquet où ils se prennent, d'ailleurs, ils se marchent sur les pieds les uns des autres, voire Riester et la première ministre sur les femmes, par exemple. Bah, on découvre qu'il y a des sujets non réglés. La pénibilité, les femmes, les carrières longues, etc.
Et là, il y a un peu de rétropédalage. Mais alors, sur les 64 ans, quand même,
la
CFDT, qui n'est pas le plus virulent des syndicats, dit « ça ne passera pas, ça sera sans nous ».
Moi, depuis le début, le gouvernement est dans une difficulté qui est qu'il faut que la droite vote. Sinon, on passe à un 49-3.
C'est pas gagné, hein.
C'est pas gagné, mais il faut que la droite vote. Et pour que la droite vote, eux, ils étaient à 65. Et donc, ils en font une question de principe aussi, en disant « ne reculez pas là-dessus ». Voilà.
Encore qu'il y a des gens
qui peuvent dire, ok, ils disent, mais ne reculez pas. Et de toute façon, le gouvernement sait très bien que même s'il recule sur les 64 ans, la gauche ne votera pas quand même.
Bien sûr.
Bon, donc d'autre manière, ils disent, ok, on y va. Bon, après, moi, j'ai une autre théorie, on verra bien ce que dira l'avenir. Je pense que depuis le début, le président Macron dit maintenant, ça passe ou ça casse. C'était 65, je tombais à 64, je ne descendrai pas en dessous. Et si les gens ne sont pas contents, si ça bouge, je dissous et les Français choisiront. Mais, parce que quel intérêt d'aller au clash, comme ils vont au clash, et quel intérêt pour la Première ministre, à deux jours
de, toute façon, ils sont au clash,
de la manifestation, de dire là-dessus, c'est même pire ce qu'elle a dit. Elle a dit, ce n'est plus négociable. C'est-à-dire comment ça l'était.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est un message sibyllin?
Ce à quoi les syndicats ont dit, elles se fichent un peu de nous, parce qu'on a eu
l'impression
que jamais...
C'est un message qui passe à la droite en disant, on lâchera pas, donc soyez... Parce que ça commence à tanguer à droite, chez les Républicains. On n'est pas sûr
qu'il y a... Mais même chez Renaissance.
Mais même chez Renaissance,
ils ont leur circonscription.
Donc on y va. Et là-dessus, le président de la République dit, écoutez, soit vous votez, soit je dissous. Et si je dissous, vous n'êtes pas sûr de revenir.
Pas ça encore.
Voilà. Non, mais
Est-ce que ça peut finir en ordonnance? Moi, j'ai entendu cette nouvelle notion, la ordonnance émerger ou pas.
Alors, attendez, là, on est sur un...
En cas de blocage.
Non, mais là, en cas de blocage, ils ont le 49-3 sur le texte budgétaire.
47-1, oui, c'est très... ça peut être comme ça.
Avec le 47-1.
Le blocage, ça sera débloqué avec le 49-3. Le problème, c'est que les mesures positives...
Ça peut être retoqué par le Conseil aussi.
Le 49... Oui, attendez. Donc, ils seront obligés de faire un deuxième texte qui pourra passer aussi pour le 49-3, avec le fameux one-shot du 49-3. Mais ça veut dire que la loi immigration, elle, s'il n'y a plus de
49... C'est fini après,
47-1,
ils auront épuisé leur...
Ça se termine par une ordonnance.
Oui, alors ça, mais là, sur un texte financier, le 49-3 sera plus simple.
Éric Dorit-Mathen, est-ce que vous êtes penché sur la question, forcément? Sur quoi ça peut encore bouger? Quelle est la marge de manœuvre ou disons les aménagements encore possibles du côté de l'exécutif, sans que ça coûte trop, parce que j'ai l'impression qu'ils ont sorti les calculettes tout le week-end.
C'est vraiment le problème de la calculette, parce que là, on est en train de dépasser, finalement, on va dépasser la zone qui était à peu près encore rentable pour cette réforme, et finalement, le gain financier risque d'être nul. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on l'a dit, la pénibilité, ça, c'est la première chose, avec un compte formation qui permettrait de gagner des trimestres et de partir plus tôt, mais vous avez compris tout à l'heure, c'est une telle usine à gages que ce ne sera pas simple. Et deuxièmement, oui, effectivement, il faut le reconnaître, le travail des femmes. Ouais. Maintenant, c'est acquis. On le sait, ça c'était un peu passé sous silence, mais vous avez raison de dire...
Merci Jean-Christophe.
Renaissance, par exemple, elle propose, Barbara Pompili, qui est verte, mais elle propose de descendre à un an l'âge légal de départ à la retraite pour les femmes.
Ça fait perdre
2 ans d'après les calculs.
Le troisième enfant, une pension qui serait revalorisée de 15%. Vous imaginez ce qui est quand même demandé. Parce qu'on a découvert...
C'est pas simplement pour faire plaisir aux femmes et pour être gentil avec les femmes. C'est simplement que c'est le moteur aussi. La maternité est quand même le moteur de la démographie, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, laisser de côté l'aspect démographique... Moi, j'ai été très frappée par une interview du porte-parole de Renaissance sur Europe 1 par Sonia Mabrouk qui lui faisait parler de la démographie. Il nous a quasiment dit il nous a quasiment dit quand les Français penseront printemps, la démographie ira mieux. Je me dis, comme politique nataliste, ça se pose là. Vous voyez, ça n'a pas du tout été pensé.
C'est l'angle mort. Pardon, juste un mot pour dire que la politique familiale a été l'angle mort là aussi.
Bien sûr.
Et bien sûr qu'il faut que cette loi prenne en compte ce que font les femmes pour la natalité du pays.
On est d'accord, mais ça va coûter quelques milliards. 2, 3, 4, 5.
C'est pour ça.
C'est un investissement.
Non, mais d'accord. Non, mais ce qui veut dire que ça plombe la réforme, puisqu'on sortira avec une réforme qui sera déficitaire.
Peut-être pas, mais qui ne rapportera rien.
Donc qui n'aura servi à rien.
Qui obligera à une nouvelle réforme.
Ah, mais de toute façon, dans 10 ans, on est reparti pour un tour.
Oui, allez, c'est parti aussi pour la mobilisation. On attend peut-être une mobilisation supérieure à celle du 19 janvier. En tout cas, bon, ça c'est la communication côté syndicat, mais même du côté des pouvoirs publics, on a mis un petit peu plus de force de l'ordre dans les rues pour un cortège qui sera a priori plus fourni à Paris déjà, et puis peut-être dans des villes moyennes, ça a déjà été le cas la dernière fois. À quoi faut-il s'attendre demain ? Sandra Buisson nous résume tout cela.
Dans la rue, une foule aussi nombreuse que celle du jeudi 19 janvier, voire plus conséquente, c'est ce que prévoient les autorités pour demain. Selon nos informations, ce sont 1 voire 1,2 million de manifestants qui sont attendus à travers la France, dont 80 à 100 000 dans la capitale. Au total, un peu plus de 250 actions ont été déclarées au niveau national pour cette journée de protestation contre la réforme des retraites. En région, les plus fortes mobilisations, autour de 30 000 manifestants, se tiendront à Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier. Particularité de ce mouvement, il mobilise fortement au-delà des grandes métropoles. Dans les villes moyennes comme Rodez, Tulle, Limoges ou encore Brive, 5 à 10 000 personnes s'étaient réunies lors de la dernière journée d'action. Et plusieurs centaines de manifestants avaient aussi battu le pavé contre le projet du gouvernement dans des villes plus petites. Du côté des lycéens, la mobilisation pourrait être plus importante demain, alors que jeudi 19, moins d'une trentaine d'établissements avaient été concernés par des actions au niveau national. Quant aux perturbateurs, les casseurs qui voudraient tenter de faire dégénérer les cortèges, ils seront à nouveau de la partie. Lors de la précédente journée de manifestation, les seules heurts en région ont concerné la ville de Rennes. À Paris, 2 courts épisodes de violence ont eu lieu vers 16 heures, sans parvenir à faire basculer dans le désordre la masse des manifestants classiques.
François Pupponi, les syndicats, ils ne sont pas un peu sur une ligne de crête aussi? Parce que paralyser le pays, c'est aussi courir le risque de voir l'opinion se retourner. C'est-à-dire, c'est compliqué de trouver le bon adage, non?
Alors, c'est tout le débat entre la CGT et la CFDT. Ouais. La CGT sait que très bien que pour gagner, il faut bloquer. Parce que ça rend un mouvement impopulaire. Et que devant la popularité, les Français diront « Oui, les syndicats, excusez-moi, ce qu'ils font, c'est pas bien, mais le gouvernement, il a retiré son projet de loi. » Donc à la fin, la pression étant tellement forte que même si c'est impopulaire, ça oblige le gouvernement à retirer. Et tous les mouvements sociaux ont été gagnés comme cela. Ils devenaient insupportables pour les Français, et les Français disaient au gouvernement « Retirez vos textes et ça ira mieux ». Et donc le gouvernement, à la fin, est obligé de le retirer.
Mais là, on n'a pas l'impression quand même d'un pays bloqué comme dans les...
Ça va monter en puissance. Il y aura une manifestation.
Donc vous y croyez demain?
Il y aura du monde. Et quand le gouvernement dira, il y a du monde, mais ce n'est pas grave. Rappelez-vous Juppé, en 95. Moi, tant qu'il n'y aura pas 2 millions de personnes dans la... Bon. Et donc après, ça sera des grèves ciblées, des mouvements ciblés qui vont perturber le pays. Parce que c'est un combat de longue haleine. Et les syndicats savent très bien que c'est dans la durée qu'on gagne un
mouvement. Gabriel Cluzel, le temps de la rue n'est pas celui du temps, enfin c'est pas le temps parlementaire, quoi, parce que celui-là il va être raccourci pour le coup.
Oui, vous avez raison, mais le temps de la rue risque d'être un peu long, surtout si les villes moyennes s'en mêlent, parce que ça prouve qu'il y a quand même peut-être une gilet jaunisation du mouvement.
Il y a une résurgence, visiblement.
Oui, ouais. Voilà, ces villes moyennes, c'était là où il y avait les gilets jaunes. Donc si elles commencent à s'agiter, ça peut être compliqué. L'enjeu pour les syndicats, c'est aussi de montrer que, parce qu'ils sont contents, on les disait discrédités, démonétisés, là ils reprennent la main, mais c'est de montrer que c'est eux... qui mène, ce qui n'est pas forcément évident parce que la retraite, elle est un totem pour le gouvernement, mais elle est aussi un totem pour les manifestants qui, je ne suis pas d'accord avec Macron, je n'aime pas ce qu'il fait au gouvernement, et ben, je suis contre la réforme des retraites.
Bon. Oui.
Donc voilà, alors, et à l'Assemblée nationale, vous avez raison, c'est un autre jeu. Alors, c'est compliqué, par exemple, pour le RN, c'est une ligne de crête parce qu'eux ne veulent pas jouer la carte de la rue. Cela dit, ils n'ont pas tellement de choix puisque les syndicats ont dit qu'ils ne voulaient pas d'eux, alors c'est compliqué.
Mais en même temps, mais, ils critiquent pas. Enfin,
voilà, ouais. Et ils veulent montrer que bah, eux, ils sont bien élevés, entre guillemets, et ils jouent la carte de l'Assemblée nationale. Donc tout ça, c'est un jeu compliqué, un billard à cinq mandes.
Pierre Lelouch, comment vous la sentez, cette mobilisation-là de la rue?
Je pense que le gouvernement s'est mis dans un coin, là, en disant qu'ils ne bougeront plus. Alors, l'âge devient le chiffon rouge de toute l'affaire. Voilà, maintenant, il y a un objectif, c'est soit le maintenir, soit le retirer.
C'est la focale
et
64.
À partir de là, tout se joue maintenant dans la rue. Si ça monte en puissance, ça va être très, très compliqué
si
pour le gouvernement.
Prend...
Parce qu'ils ont exclu eux-mêmes de négocier.
On passe dans une dimension.
Donc, c'est retrait ou pas retrait? Pardon ?
On passe dans une autre dimension à partir de demain soir.
Je pense que oui. Alors, la question, c'est pourquoi il l'a fait. Monsieur Pupponi pense que c'est parce que Macron joue la dissolution. Moi, je pense qu'ils ont très mal joué le coup depuis le début, parce que Sarkozy, j'étais autour de la table du Conseil, Dieu sait que c'était difficile. Bon, là, on a eu beaucoup de manifestations à 1 million pendant 9 semaines de mémoire. Enfin, Sarkozy, ça devait être 63, 64. Il est descendu. Il y a une espèce de... Et on avait la majorité à l'Assemblée.
Oui, il n'y a pas de...
Là, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et ils sont coincés avec un chiffon.
Allez, rendez-vous pour certains d'entre vous. Demain,
gagné, là.
On s'interrompt à nouveau et puis on revient pour parler du suicide de Lucas, âgé de 13 ans. Sa mère a pris la parole aujourd'hui. C'est un témoignage très, très émouvant. Mais surtout, elle a dit des choses qui vont marquer beaucoup de parents et on l'espère aussi, beaucoup d'adolescents. À tout à l'heure. De retour avec vous pour la troisième partie de notre émission. On va retrouver Adrien Spiteri pour le rappel des titres avant de reprendre le débat.
La réforme des retraites s'est examinée en commission à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Une soixantaine de parlementaires planchent sur le texte avant d'arriver dans l'hémicycle à compter du 6 février. Un examen à la veille de la deuxième journée de mobilisation contre le projet du gouvernement. 1,2 million de manifestants sont attendus sur le territoire. Une œuvre de Gustave Caillebotte entre au musée d'Orsay à Paris. Il s'agit du tableau La partie de bateau, considéré comme un trésor national. L'acquisition a été réalisée grâce au mécénat du groupe LVMH. La toile est estimée à 43 millions d'euros. Et puis des recherches en cours en Australie. Objectif, retrouver au plus vite une capsule radioactive. Elle est introuvable depuis la mi-février. Elle serait tombée d'un camion alors qu'elle était transportée vers un lieu de stockage. Les autorités sanitaires mettent en garde contre toute manipulation de cet objet.
Merci beaucoup. On va parler du suicide de Lucas. Vous en souvenez sans doute, c'était il y a 3 semaines, cet adolescent de 13 ans qui mettait fin à ses jours parce que harcelé à l'école. Eh bien, sa mère est sortie du silence. Elle s'est exprimée pour la première fois devant les caméras. Une de nos équipes était sur place. Le résumé, Jeanne Cancard.
Une prise de parole pleine d'émotion au cours de laquelle la maman de Lucas a pointé du doigt la responsabilité de l'établissement scolaire face au harcèlement de son fils. Ils auraient pu faire quelque chose, ils auraient dû, a-t-elle déclaré. Lors de cette conférence de presse, elle s'est aussi adressée indirectement au harceleur de son enfant. Elle veut aujourd'hui qu'il prenne conscience, qu'il réalise que chaque mot, chaque parole peut avoir de graves conséquences, même si elle reconnaît aussi eh bien, que ces 4 harceleurs, 4 adolescents âgés de 13 ans qui seront jugés au cours du printemps prochain, reste des enfants. Cette maman, aujourd'hui, appelle au calme et à la sérénité. Elle qui veut faire de la lutte contre le harcèlement scolaire et l'homophobie, les combats de sa vie. Ce dimanche, ici à Épinal, une marche blanche est organisée en mémoire de Lucas.
On va l'écouter, cette femme, dans ses mots, pointer la responsabilité de l'établissement scolaire.
Moi, oui, c'est le harcèlement qui a été l'élément déclencheur. Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Enfin, c'est mon ressenti à moi. Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même.
Voilà. Alors là, clairement, il y a quelque chose qui n'est pas bien passé hein, au niveau de l'encadrement, où on ne l'a pas écouté, où on a minimisé, où on n'a pas imaginé que ça pouvait prendre une telle ampleur. Mais il va falloir se poser la question du recueil de la parole aussi des enfants à un moment donné.
Oui, mais le harcèlement, c'est un vrai sujet au collège. Hein. Il y a eu d'autres enfants. On se souvient de Manon, il y a eu un film qui a été fait même sur son cas. Et le collège, vous savez, à Blanquefort, il y a quelques semaines, les professeurs se sont mis en grève parce qu'ils n'ont pas fait la rentrée parce qu'ils n'arrivaient plus à rien maîtriser. Voir que dans une société où monte l'ensauvagement, bah, le collège, c'est un lieu où beaucoup de professeurs, des chefs d'établissement ne maîtrisent plus rien. Alors vraiment, c'est l'âge de tous les dangers. Hein. Ils sont trop grands pour être petits, trop petits pour être grands. Il n'y a plus de tuteur. Vous savez, c'est un peu vrai, comme on parle souvent de la délinquance des mineurs, mais c'est vrai aussi pour le harcèlement. Quand tout petit, on ne vous a pas mis de tuteur, que vous ne savez pas ce que c'est que l'autocensure, qu'il y a des propos qui ne se disent pas, qu'il n'y a pas d'empathie pour les autres, ça se traduit dès l'âge de 13 ans par une méchanceté sans nom, et c'est le caïd finalement de la classe qui fait la loi et qui entraîne avec lui les moutons de panurge, parce qu'il y en a toujours dans tous les établissements. Et ensuite, alors vous savez, on a fait une loi sur le harcèlement. Curieusement, les sociétés très laxistes avec les enfants aboutissent à beaucoup de judiciarisation parce que ça aboutit à des drames et on se dit, mon Dieu, il faut faire quelque chose. Donc je crois que le mal, il est profond, et c'est une question d'éducation intrinsèque qui concerne les familles, au-delà de l'établissement qui, sans doute, n'y a pas pris garde parce qu'il doit recevoir, hein, ça, il doit être le réceptacle d'un certain nombre de doléances, et il n'a pas su voir lesquelles étaient absolument urgentes à prendre en compte, mais il y a un problème d'éducation profond dans notre pays, mais je le trouve proprement effrayant aujourd'hui, et évidemment, cette famille en a payé le prix fort.
Pierre Lelouch, c'est une combinaison de facteurs. Effectivement, il y a le problème aussi de l'éducation des enfants. Et
c'est extrêmement difficile. Je suis très gêné pour commenter sur une situation que je ne connais pas. Parce que je ne connais pas. Il y a la psychologie de cet enfant qui est mort. C'est une tragédie absolument épouvantable. Connaître comment ça se passait entre lui et ses parents, s'il a pu parler à ses parents, attend pour que les parents agitent le cocotier au niveau de l'école. Si au niveau du lycée, il y a à côté du directeur d'établissement quelqu'un qui est à même de faire de la surveillance ou zéro, si les professeurs viennent juste faire un cours sans s'intéresser à ce qui se passe une fois qu'ils sont sortis de la classe, tout ça c'est un tout. Donc après, est-ce que l'éducation nationale, compte tenu de ce que disait Madame Cluzel sur l'ensauvagement, qui lui-même est amplifié par les réseaux sociaux, ils sont bardés de téléphones. Moi je dis toujours, les téléphones doivent être bannis de l'enceinte scolaire, déjà pour commencer. Pour éviter les groupes WhatsApp et toutes sortes de choses où ils se renvoient des messages toute la journée. Déjà, il faut les bannir. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un système de surveillance. Du temps où on était au lycée de notre génération, il y avait ce qu'on appelait un censeur qui était là pour assurer. Puis il y avait des contrôleurs, il y avait des contrôles dans la cour, on surveillait les élèves et quand il y avait un problème, il y avait des procédures d'activation et de sanction. S'il n'y a rien, si le professeur fait son cours et qu'on se dise que son contrat est rempli et s'en va, évidemment, ça peut laisser des situations extrêmement compliquées, surtout sur des enfants. Ou en plus, tu es en train de parler de sexualité et d'homosexualité à un âge où la sexualité n'est même pas encore vraiment définie.
Quoi. 13 ans, ouais.
Qu'est-ce que c'est que ces accusations homophobes à des âges pareils entre enfants?
Après,
J'ai du mal à. Vraiment, j'ai du mal à comprendre, parce que ce sont des âges où la sexualité est en train de s'affirmer. Donc c'est très fragile. Si personne ne surveille rien, on a ce genre de drame.
À l'école primaire, on sait comment sont les enfants aussi. Il y a souvent, dans l'affirmation du caractère, beaucoup de cruauté chez les enfants. On est cruel quand on est enfant. C'est là que les parents entrent en jeu aussi.
Oui, ça on le sait. Les réseaux sociaux ne font qu'amplifier. Pierre Loucharoux ne font qu'amplifier cela. Bon, parce que c'est diffusé, ils en profitent. Ok. Le problème, c'est que au niveau des établissements scolaires primaires ou secondaires, il n'y a plus personne pour être dans l'écoute.
Voilà,
ça, là, un enfant qui est harcelé, il faut un psychologue qui le suive, qui l'écoute, qui voit s'il est en train éventuellement d'avoir un passage à l'acte dans le cadre d'un suicide. Mais ça, il y a
quand même quelqu'un qui parlait.
Oui, il y a quelqu'un qui parlait et qui est capable de comprendre. Non. Mais il n'y a plus. Les professeurs ne sont pas là pour ça. Enfin, quand on dit, eux, ils peuvent signaler un harcèlement. La mère a signalé le harcèlement. Mais ensuite, qui...
Deux fois.
Oui, il n'y a plus de pédopsychiatre, il n'y a plus de psychologue scolaire, il n'y a plus d'assistante sociale scolaire, il n'y a plus tout ça. On a supprimé ces structures-là. Donc l'écoute dans ces établissements, c'est compliqué et on arrive à des drames comme cela.
Allez, une petite interruption, puis on reviendra pour parler de ce braquage qui a vite tourné court, hein, parce que la BAC était en embuscade dans le 15e arrondissement, grâce au signalement d'un voisin. C'est Amaury Bucco qui vient nous raconter cette histoire. À tout à l'heure. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous entamons la toute dernière partie de cette émission 90 minutes info. On va parler de ce barbier qui a été attaqué dans son salon de coiffure pour sa montre. Ça s'est passé samedi soir dans le 15e arrondissement de Paris. Il était en état de choc, mais il a accepté de témoigner pour CNews. Vous allez voir aussi les images de l'agression qui ont été filmées par un riverain. Et puis on en parle avec Amaury Bucco du service police-justice. Juste après ce reportage, Charles Baget, Barbara Durand.
Le cauchemar de ce barbier n'aura duré que quelques secondes. Un braquage d'une hyperviolence pour une fausse montre de luxe. Le gérant de ce salon n'en revient toujours pas.
Il m'a poussé là, je reçois un café là parce qu'il y a la toilette dedans et tout. Il m'a demandé directement, donne-moi votre montre. Je ne l'ai pas donné à la base. Après, il m'a tranglé derrière. Après, moi, j'ai pensé sur moi, il y a un coton, je ne sais pas quoi dedans, et sur lui. Après, je lui ai donné la montre. Après, les flics, heureusement, ils ont rentré d'un coup.
Et ce, grâce à la vigilance de plusieurs voisins, dont celui à l'origine de cette vidéo. Les policiers, prêts à intervenir, ont très vite maîtrisé et arrêté les trois individus pris en flagrant délit.
Trois jeunes qui ont essayé de pénétrer dans un immeuble du 15e arrondissement. Les voisins ont vu le mouvement qui a été provoqué, ils ont réagi tout de suite, très vite, et à raison. Ils ont appelé le 17, les policiers ont pu intervenir, faire fuir ces jeunes-là, et ensuite les prendre en filature.
Dans ce quartier, décrit comme calme et paisible, les habitants craignent de voir s'installer la violence et l'insécurité. En 2022, les vols de montres de luxe ont augmenté de 31% en un an.
Bonjour Amaury Bucco. On va s'intéresser avec vous à la manière dont tout cela a commencé, parce qu'en fait, c'est parti du signalement d'un voisin qui était aux aguets, qui assistait à une scène qui l'a interpellé.
C'est ça. En fait, ce voisin, pour vous expliquer un peu le contexte, il avait été lui-même victime d'une tentative du vol de sa montre fin 2021. Et il n'était pas le seul, puisque dans ce même 15e arrondissement, plusieurs autres voisins, ils sont à peu près une quinzaine, à avoir été victimes de tentatives de vol de montre. Les auteurs avaient été interpellés, ils vont être jugés bientôt d'ailleurs. Mais donc, toujours est-il que ce voisin était du coup assez vigilant de fait de ce traumatisme et a vu, lui ainsi que d'autres voisins, trois personnes déambuler dans la rue complètement masquées, si vous voulez, avec un masque chirurgical et une capuche. Sinon, c'est quand même bizarre. Et ils ont essayé de rentrer d'abord dans un immeuble. Puis ils ont été chassés, c'est-à-dire que les voisins se sont descendus pour voir ce qu'ils faisaient, etc. Et pour ne pas être cambriolés, sans doute.
Mais ils n'en sont pas restés là.
Exactement, puisqu'ils ont prévenu la police et que la BAC était dans le coin, savait qu'ils étaient là apparemment aussi, mais du coup ont pu les suivre à la trace et se dire on reste vigilant, on reste derrière eux. Et dès qu'ils sont arrivés dans ce salon de coiffure pour arracher la montre du gérant, eh bien, la BAC, qui est une unité spécialisée justement dans le flagrant délit, a pu agir en flagrant délit en sortant leur arme pour figer la situation et les interpeller sur le moment. Alors, sur le profil des auteurs, puisque oui. Du coup, la scène s'est déroulée samedi soir et maintenant, on est lundi, donc il s'est passé 48 heures. Eh bien, il s'agit de deux mineurs et un majeur. Hein, c'est ce que nous indique le parquet de Paris. Ils sont domiciliés en banlieue parisienne. Il y en a deux qui habitent en Seine-Saint-Denis et un autre qui habite dans les Hauts-de-Seine. Ils ont été placés en garde à vue. Là, la matérialité des faits fait peu de doute, puisqu'il y a le flagrant délit. Il y a aussi la vidéo de ce voisin. Donc, a priori, ils vont être condamnés. En tous les cas, là, ils sont toujours présumés innocents. Ils sont en garde à vue. Cette garde à vue, elle a été prolongée de 24 heures. C'est 48 heures maximum. Et à l'issue de cette garde à vue qui va, a priori, prendre fin à la fin de la journée aujourd'hui, eh bien, ils vont être déférés. Et puis, le parquet va décider des poursuites, sachant que comme c'est deux mineurs et un majeur, eh bien, ils ne vont pas être forcément jugés ensemble.
Alors, ce voisin témoin que vous avez rencontré, on a un extrait de ce qu'il a dit. Je vous le soumets, puis après, on en parle ensemble.
J'ai vu trois types habillés tout en noir, la capuche sur le crâne, masque chirurgical sur le nez, jogging noir, basket noir. Je me suis dit, c'est bizarre, ils n'ont pas l'air d'être du coin. Ils ont essayé d'entrer dans l'immeuble qui est situé juste en face de chez moi. Clairement, c'est des voisins qui ne me disaient rien du tout. J'ai appelé immédiatement le 17.
ambiant autour de voisins vigilants. C'est aussi le rôle de tout un chacun.
Mais bien entendu, c'est le citoyen qui doit signaler lorsqu'il constate qu'il peut y avoir une agression, un cambriolage, bien sûr. C'est le rôle de chacun de le faire.
Donc là, c'est une histoire qui finit bien.
Mais ce voisin est courageux parce que moi, je connais beaucoup de gens qui n'osent plus le faire de peur des représailles.
Mm-hmm. Pierre Lelouch.
Pas un mot à ajouter, c'est exactement comme ça que ça doit être fait. Mm. Action du citoyen prévient la police, qui était très efficace.
Mais ne jamais agir soi-même, c'est ce que nous disent régulièrement les policiers. Hein. Il faut signaler, mais ne jamais se mettre en danger, aller à la confrontation. Ça avait été le cas, on se souvient, d'affaires de cambriolage en race campagne qui avaient mal tourné parce que des voisins étaient arrivés sur les lieux. Ils s'étaient un peu fait embêter, enfin en tout cas réprimander, pour utiliser un mot, un terme châtié par les gendarmes à l'époque, Gabriel Cluzel.
Oui, de fait, ce voisin est courageux parce que la tendance est plutôt à regarder ailleurs. Hein, comme ça, on n'a pas d'embrouille. Et puis, on n'est pas encouragé dans notre société à simplement tirer des déductions. Je vois ce monsieur dit, oui, avec leur marche chirurgicale, leur capuche, quand même, j'ai trouvé ça louche, ils n'étaient pas du coin. Bah, écoutez, aujourd'hui, c'est des mots que vous avez à peine le droit de dire, parce qu'on va vous dire, ah bon, mais les capuches, quel est le problème avec les capuches? Vous savez, aujourd'hui...
C'est stigmatisant.
Voilà, c'était stigmatisant, donc c'est du délit de sale gueule, vous voyez, bon, vous voyez toute la rhétorique autour de ces sujets-là, donc ça n'incite pas les voisins à être vigilants, et pourtant, la solidarité entre voisins, je pense que c'est une des premières solidarités de la société.
C'est vrai.
Depuis des siècles.
Et il n'était pas tout seul, hein, d'ailleurs, puisque vous le racontiez tout à l'heure. Il y a d'autres voisins qui se sont interposés, enfin qui ont dit « qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire là ?» quand ils ont tenté d'entrer dans ce hall d'immeuble.
C'est ce que raconte effectivement ce témoin. C'est que quand ils ont vu que ces trois jeunes gens... j'imagine qu'ils sont jeunes, je n'ai pas leur âge, mais oui, si vous me direz, il y a deux mineurs et un majeur. En tout cas, a priori, ils sont plutôt jeunes, pardon. Et bien, quand ils ont vu qu'ils rentraient dans un immeuble, mais en cherchant un peu leur chemin, ils se sont dit « bon, bah, on va descendre nous-mêmes ». Et c'est en voyant qu'il y a des voisins qui sont là, eh bien, ils vont pas faire leur méfait puisqu'ils voient qu'il y a de la présence humaine et du mouvement et donc ça les effraie.
Merci beaucoup Amaury. En tout cas, en l'espèce, plus de peur que de mal. On va parler de ces heures de cours qui sont non assurées en très grand nombre. Le manque de profs dans le primaire et le secondaire se fait de plus en plus ressentir en France malgré les trésors d'imagination déployés par l'éducation nationale pour tenter de recruter des profs qui manquent à l'appel. Visiblement, ça marche pas très bien. Kinson et Célia Judas pour le résumé.
Dans les établissements scolaires, le problème est bien connu. Les remplaçants n'étant pas assez nombreux, il devient impossible de boucher tous les trous. Un casse-tête pour les parents d'élèves qui dénoncent un manque de visibilité.
On va à l'école, on ne sait pas si on va avoir un maître ou une maîtresse, donc c'est pas très motivant. Ils ne sont pas vraiment cadrés. À cet âge-là, on a besoin d'une structure. On va à l'école pour apprendre.
La semaine dernière, un collectif de parents d'Île-de-France, baptisé On veut des profs, a lancé une procédure judiciaire contre l'État.
Nous engageons des actions donc, d'urgence pour essayer de faire condamner l'État à trouver un remplacement et à rattraper toutes les heures perdues.
Avec cette action, chaque parent pourrait réclamer à l'État une indemnisation de 10 euros par heure de cours perdue. Ou encore le remboursement d'éventuels frais de cours particuliers. Pour le syndicat national des lycées et des collèges, la rentrée prochaine s'annonce déjà difficile.
On a beau avoir des job dating organisés dans plusieurs académies, le constat est sans appel. Il manque des profs.
En 20 ans, le syndicat a recensé une baisse de 60% du nombre de candidats inscrits au CAPES dans le second degré.
Alors ça, c'était la grande affaire de la rentrée. Vous vous souvenez, quand on a dit « Ouh là là, il n'y aura pas de profs pour la rentrée, vite !» Recrutons à bas coût, ou alors revoyons un peu le degré d'exigence. Visiblement, ça ne marche même pas. Hein.
Mais il faut faire comme le monsieur de la restauration nous indiquait tout à l'heure.
Faire venir des gens de l'étranger.
Ah ben, il n'y a qu'à mettre des immigrés. Vous voyez, c'est là que... Pour être sérieux, et c'est là que j'hésite entre le coup de gueule et le coup de déprime, parce que quand on voit l'état de l'hôpital en France... Il manque des infirmières, il manque des médecins. Quand on voit l'état de la justice, le manque criant de juges, les affaires qui traînent sur 10 ans, 12 ans au civil, les affaires pénales qui sont reportées, même on a eu le cas d'une grosse affaire antiterroriste qui n'a pas pu être jugée il y a quelques jours.
À Marseille, oui.
Quand on voit l'affaire de l'éducation nationale où on a été prendre des gens qui étaient à peine formés, qui avaient 4 de moyenne en arithmétique comme prof, c'est ce qu'on a fait à la rentrée, faute de professeurs. On se dit, mais quelque chose qui ne va plus du tout dans ce pays, quoi.
Mais on a un problème avec la fonction publique, en tout cas.
Mais quel intérêt pour quelqu'un qui a fait des études de se retrouver prof dans des conditions difficiles en étant mal payé? Donc à un moment, les gens qui ont fait des études, ils font autre chose.
Mais François,
ce n'est plus attractif.
Avec un pays qui a 3 000 milliards de dettes.
Oui, d'accord. Mais...
Et le record de dépenses publiques.
D'accord, mais ça n'est plus attractif. Et donc là, c'est pas qu'on manque de profs. C'est pas qu'on... Enfin, le problème du remplacement des profs, ça a toujours été récurrent. Mais là, c'est qu'on n'arrive plus à en recruter. C'est-à-dire que quand on publie le CAPES, les gens ne se présentent plus. Donc ce n'est plus un emploi porteur.
Donc on va voir les effectifs grossir dans les classes.
Voilà. Grossir et puis plus de profs du tout.
Dédoublement des classes de CP.
Et puis le niveau des enseignants qui va baisser. Donc on est en train d'appauvrir la qualité de l'enseignement.
C'était censé devenir la norme, dédoubler les classes. Pour l'instant, on en est loin, Gabriel.
C'est vraiment le naufrage de l'éducation nationale. Vous avez parlé du job dating, pardon, que c'était quelque chose de profondément scandaleux. C'est quand même ce qu'on a de plus précieux au monde pour les enfants. On va confier des enfants, le sujet précédent l'a montré, qui psychologiquement ne sont pas des adultes par définition, donc ils sont malléables. On va le confier à des adultes qui au-delà de la matière elle-même... Donc
ça devient de la garderie, quoi.
Enfin, évidemment, de la garderie assumée de briques et de
mauvaise
broc. Et après, on s'étonne que les parents fuient vers le privé, ce qui leur coûte cher, parce que c'est payé deux fois l'école. Ils paient une première fois l'école publique par leurs impôts, et puis ils essaient d'en trouver une meilleure ailleurs, autrement. Et après, on s'étonne que les gens se disent « Ah ben, on paie trop d'impôts, ils ne paient pas trop d'impôts ». Il paye mal d'impôts, ça n'existe pas comme expression, mais c'est grammaticalement faux, mais voyez l'idée, quoi.
Merci à tous les trois, c'est déjà la fin de cette émission, c'était tout le temps qui nous restait, mais on n'a pas fini d'en parler de ce recrutement dans l'éducation nationale. Je voulais quand même vous soumettre ça juste avant le début de Punchline. Bien sûr, vous retrouvez Laurence Ferrari dans un tout petit instant. Quant à moi, je vous dis à demain, grosse journée de mobilisation. Nous serons là dans le cortège avec plusieurs de nos équipes déployées. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission sur le site de CNews, cnews.fr. Pour le replay, à demain après-midi.
Mais c'est vrai que